Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous.
1, 2, 3, 4.
Que se passe-t-il sur les scènes de théâtre en ce moment ?
Quel toi je demeure, moi qui proviens d'une maison royale ? Ma mère, cependant, entourée du butin fait à trois, siège sur son trône. Le sang de mon père fouille encore le palais, noircissant, pourrissant. Quand il est ivre et ruisselant de vin, le mari de ma mère, l'illustre et juste, va, dit-on, danser sur la tombe et frappe la dalle à grands coups de pierre, puis ose encore se tourner contre nous. Où est en reste ton cher fils ?
Eh bien, en ce moment, à la Comédie-Française, on peut voir une mise en scène par le Belge Ivo Van Hoff de Electre et Oreste. Rappel de l'histoire telle qu'elle démarre dans le texte d'Euripide. Electre veut venger la mort de son père Agamemnon. Il a été assassiné par sa mère Clytemnestre. Electre pousse donc son frère Oreste à accomplir le matricide. Cet acte sacrilège est souvent présenté dans les représentations théâtrales comme un acte légitime, justifié et qui ne pose aucune question au meurtre de leur père, les enfants ne pouvaient que répondre par le meurtre de leur mère. Mais sur la scène de la Comédie-Française, c'est une toute autre histoire qui s'énonce. Lorsque Clytemnestre s'avance, ce n'est pas du tout une hystérique qui s'exprime, c'est une femme raisonnable, sensée et qui a ses raisons. Si elle a tué Agamemnon, c'est parce que son époux avait lui-même sacrifié une autre de leurs enfants, Iphigénie.
La faute en est aux attentats que ton père a commis envers ceux des siens qu'il devait le plus épargner. Lui, trompant ma fille par la promesse d'épousailles avec Achille, l'emmena bien loin de chez nous, vers les vaisseaux arrêtés à Aulis. Là, sur l'autel, il l'étendit, et sa faux fit tomber la blanche joue d'Iphigénie.
Ce que dit cette mise en scène à la Comédie-Française du Belge Ivo Van Hoff, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui réduire Clytemnestre au cliché habituel. Ce serait une mère sans cœur, une hystérique sanguinaire assoiffée de pouvoir ? Non, ce n'est plus le cas. Ce changement d'optique, de focale, est-il politique ? Est-ce que faire de Clytemnestre une héroïne dont le geste peut se plaider, peut se défendre, peut s'argumenter, c'est faire du théâtre politique ? Cette question, je voudrais la poser à notre invité du jour, Olivier Neveu, avec qui nous allons dialoguer jusqu'à 16h. Vous êtes bien dans une saison au théâtre. Bienvenue à vous. Olivier Neveu, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier aux éditions La Fabrique un essai intitulé « Contre un théâtre politique », essai qui décortique les liens entre le théâtre et la politique. C'est un livre réjouissant qui multiplie les pistes de réflexion sur le théâtre politique et sur ce qu'on appelle le théâtre engagé. Un livre qui attaque, qui défend, qui polémique, qui creuse, qui prend et qui permet de prendre de la distance, qui donne vraiment beaucoup, beaucoup de grains à moudre. Et je voudrais revenir vers cette histoire de Clytemnestre, vous poser la question à vous, qui êtes un spécialiste du théâtre et de la politique. Est-ce que selon vous, Ivo Van Hoff, en tournant le dos au cliché habituel d'une Clytemnestre hystérique pour lui substituer l'image d'une femme sensée, raisonnable, fait du théâtre politique ?
Pendant très longtemps, on a défendu l'idée que la relecture des classiques pouvait être un véritable enjeu politique, et je le crois vraiment. Là, j'ai pas encore vu le spectacle d'Ivo Van Hoff, mais effectivement, on pourrait se dire que la politique peut effectivement résider dans une certaine façon de poser la question qui est défendable, qui ne l'est pas, qui est audible, qui est inaudible. Et certainement, dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui se joue et qui vient désordonner nos perceptions coutumières et qui vient mettre un peu de désordre à l'intérieur d'un ordonnancement constitué. Et peut-être à cet égard, dans ce trouble-là, il y a quelque chose effectivement de politique.
Mais moi, je pensais que ça pouvait être interprété comme du théâtre politique, ou en tout cas comme un geste politique, dans la mesure où Ivo Van Hoff a sans doute été réceptif à tout ce qui se passe en matière d'émancipation des femmes, à toute la puissance de ces femmes qui aujourd'hui réclament du respect, réclament de l'égalité, et que donc changer le regard sur Clytemnestre, c'est changer complètement le rapport qu'on a à cette tragédie et à la position de la mère dans la tragédie.
Oui, le théâtre est une chambre d'écho. Enfin, quand on assiste à un spectacle, on y assiste en étant lourd, chargé, saturé de ce qu'on a vécu dans la journée, de la presse qu'on a lue et de l'époque dans laquelle on vit. Et il est évident que les artistes créent aussi avec cette chose-là. Alors après, il y a, je me souviens d'un très joli texte de Jean Jourdeuil, qui est metteur en scène, qui est le traducteur d'Heiner Müller, qui disait, d'une certaine manière, il y a deux manières de travailler les classiques. C'est soit de montrer ce qui nous distingue de leur époque, c'est-à-dire de travailler sur la distance et de pas forcément vouloir se superposer. Et puis d'autres qui, au contraire, essayent d'entendre ce qui peut faire écho et aussi de venir tordre des interprétations rouillées et de regarder comment l'histoire peut les percuter. Après, est-ce que c'est suffisant et quel type de traitement? Mais en tout cas, dans ce que vous dites, ce que je trouve assez passionnant, effectivement, c'est de revenir sur qui témoignera pour les maudits, qui permettra aux maudits de l'histoire d'avoir encore une voix et d'être pris au sérieux, et qui défend les indéfendables. C'est une question aujourd'hui.
Est-ce que vous trouvez, Olivier Neveu, c'est un peu par sa couvre contre le théâtre politique, qu'on parle trop de théâtre politique, que c'est devenu la tarte à la crème, que c'est devenu le poncif, qu'on y met tout? Le militantisme, le réalisme, la contestation, la radicalité, l'engagement. Est-ce qu'il faut faire le tri dans ce que vous appelez, vous, le mantra théâtre politique?
Alors peut-être je peux partir d'une expérience très simple que j'ai faite. Moi, j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, ce qui ne me donne pas vraiment une position d'expert. Hein, mais j'ai commencé à travailler sur ces questions-là il y a quelques décennies, hélas. Et à l'époque, donc début des années 2000, fin des années 90, si j'allais voir un ou deux spectacles dans la semaine qui avaient trait avec la question politique, c'était une semaine faste. 20 ans après, chaque soir, je pourrais aller voir 10, 20, 30, 50, 60 spectacles qui se revendiquent peu ou prou de la question politique. Donc, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une transformation. Mon travail est moins, là, dans ce petit livre, d'essayer de penser les causes, même si j'essaye de faire des hypothèses, que d'essayer de regarder les conséquences de ça. Qu'est-ce que ça produit sur le terme de politique, sur le signifiant politique, mais qu'est-ce que ça produit aussi sur le signifiant théâtre, cette inflation des usages? Mais encore une fois, je suis pas là pour dire vous avez pas le droit, vous faites du bon théâtre politique. Ce qui m'intéresse, c'est comment la politique vient percuter possiblement le théâtre, comment le théâtre fait quelque chose à la pratique politique, et aussi de repérer des fois où la chose elle est devenue tellement évidente que l'un ne fait plus rien à l'autre et réciproquement.
Alors, il y aurait inflation de théâtre dit politique ou se définissant comme théâtre politique, alors que, et c'est là où le livre est passionnant parce que c'est un manifeste, c'est un brûlot, il y a ce que vous appelez une dépolitique culturelle. Donc, des politiques culturelles passées, actuelles et sans doute à venir, qui sont absentes.
C'est-à-dire que cette inflation du signifiant politique, elle s'inscrit dans une conjoncture, néolibérale, et le néolibéralisme a à voir avec l'extinction, la disparition progressive de la politique, en sens où la politique est un lieu de conflictualité, de délibération, d'alternative. Nous sommes dans une société bureaucratiquement administrée, avec une chose qui devient de plus en plus univoque. On voit bien que les choix sont de plus en plus réduits, il faut s'adapter. Il y a un livre de Barbara Stiegler qui vient de sortir, au nom de l'adaptation au flux, au nouveau monde. Voilà, on est obligé de courir derrière. Et donc ce qui est intéressant, c'est l'inflation du terme politique dans le champ artistique, au même moment où la politique subit des assauts, et des assauts très forts de la part de la classe politique. Mais l'un est lié à l'autre, c'est pas tant que ça un paradoxe. On voit bien que le néolibéralisme a par ailleurs un problème avec ce qui ne lui rapporte rien, ce qui ne produit pas de valeur immédiate, que le théâtre en fait partie. Je dis au début de l'ouvrage que le théâtre, pour moi, à certains endroits, est une zone à défendre, et c'est une zone menacée. Et donc depuis des années, on a culpabilisé les artistes, qui ont intériorisé d'ailleurs cette culpabilisation, en leur disant « vous ne servez à rien, vous coûtez, vous êtes frivole, regardez la crise, regardez la gravité des choses, c'est quoi votre art, c'est quoi votre... » Bon. Le discours commence avec Nicolas Sarkozy hein, sur la démocratisation culturelle et son échec, et tout ça a été intériorisé. Et comment est-ce qu'on peut résoudre à ça? Ben, n'importe quel bureaucrate un peu borné peut comprendre que, en enjoignant les artistes à faire du travail social, et je n'ai aucun mépris pour le travail social, je pense que c'est un métier, et c'est pas le métier des artistes, c'est le métier des éducateurs qui eux aussi ont été laminés, en faisant du travail social, en faisant de l'animation, et quasiment la question de l'œuvre est devenue une question secondaire.
Mais vous pensez vraiment, Olivier Neveu, que parce qu'on essaye de créer du lien, ou parce qu'on essaye de réduire la fracture sociale, effectivement, injonction qui pèse beaucoup maintenant sur les artistes, on renonce à être artiste?
Ah non, je pense pas qu'on renonce à être artiste. D'abord, il faudrait savoir ce qu'on appelle le vivre ensemble, la fracture sociale, quel vivre ensemble et avec qui faut-il vivre ensemble. C'est tout à fait intéressant de regarder que ce sont les politiques de certaines personnes qui vivent dans certains endroits qui enjoignent les autres à vivre ensemble. Et on a un apartheid social, on a des ghettos sociaux. Mais donc, la question, c'est pas de dire c'est contraire à l'art. Des artistes, et on en connaît, et des grands, je pense là en parlant à Guy Alloucherie ou à Armand Gatti, a fait ça, travailler avec la population, avec le réel des vies. Mais c'était un choix qui venait de l'artiste, qui ne venait pas d'une injonction des tutelles qui font un chantage à ça pour qu'il puisse y avoir de la création.
Alors, est-ce que l'art doit servir à quelque chose? Est-ce que l'art doit être utile? Je voudrais vous soumettre la réponse à cette question par un Brechtien de la première heure, un communiste de toujours. Il s'agit de Bernard Sobel.
Le seul problème que je me pose, c'est celui de l'utilité. Ce à quoi a toujours servi le théâtre quand il était théâtre, c'est-à-dire ni engagé, ni politique, mais utile en sa spécificité, c'est d'aider les hommes à faire en sorte qu'ils n'auront jamais de solution. Je ne pense pas qu'il puisse avoir un être humain qui ne soit politique. Nous sommes des êtres sociaux. Même quand on monte mon cul sur la commode, on fait du théâtre politique. Donc c'est comment être utile. Alors, notre outil de travail, c'est le problème de trouver les métaphores justes. Ça, c'est très difficile. Charlot s'est cassé le tronc pour essayer de parler du bien et du mal.
Alors, on peut trouver tout à fait séduisant le propos de Bernard Sobel. On peut aussi trouver de la contradiction. Si être utile, comme il le dit, c'est apprendre aux hommes à faire en sorte qu'il n'y aura jamais de solution, le fait est qu'aujourd'hui, le discours ambiant, il n'est pas celui-là, qu'on peut se dire que c'est très pessimiste comme approche, que c'est ou alors très lucide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Olivier Neveu.
Il y a beaucoup de choses dans ces quelques phrases de Sobel dont il faut quand même dire à quel point l'œuvre est d'une intégrité, d'une cohérence incroyable et combien le ministère se déshonore à ne plus subventionner son travail. C'est une chose importante. Il y a quelque chose sur la durée des carrières. Ce que dit Sobel, il dit deux choses. Il dit tout théâtre est toujours politique et on peut monter mon cul sur la commode, c'est politique. Et je crois effectivement qu'il y a une dimension politique à toute activité, à cette pratique sociale singulière qui est le théâtre. Et Sobel complexifie la chose tout de suite en disant « mais ça doit être utile ». Mais Sobel est un Brechtien et utile, c'est pas utile à tout le monde. Il y a des gens qui n'intéressent pas, je crois, Sobel. Utile, c'est utile à ceux qui font partie de sa classe, qui font partie de la classe combattante, en bon Brechtien qu'il est. Et de venir dire à ceux qui aujourd'hui souffrent, à ceux qui n'ont comme source de revenus que leur force de travail, je veux être utile. Et je veux être utile comment? En empêchant le déni, en obligeant à regarder que nous avons à fabriquer avec le tragique de nos existences, avec le tragique de nos rapports de force, je crois qu'effectivement il fait œuvre utile. Mais c'est pas une utilité surplombante qui trône dans le ciel étoilé des idées, qui s'adresserait à tout le monde, et c'est pas une utilité qui se donnerait pour tâche de venir nous enthousiasmer. C'est au contraire quelque chose qui nous dit, nous avons affaire avec la difficulté. Et la difficulté aujourd'hui, pour toute personne, on va dire, engagée dans un processus de transformation et d'émancipation sociale, ou soucieuse de l'émancipation sociale, et on voit bien qu'on est mal parti, que le rapport de force n'est pas tout à fait en notre faveur et qu'il ne servira à rien de créer un théâtre qui viendrait rajouter sur l'illusion de l'inéluctable victoire et du progrès à court terme.
Je voudrais vous poser une question, elle va vous paraître sans doute un peu réductrice, Olivier Neveu, mais tant pis. Est-ce que le théâtre politique, le vrai théâtre politique, c'est un théâtre de gauche? Est-ce qu'il faut être de gauche pour faire un théâtre politique?
Non. Il y a du théâtre de droite, il y a du théâtre qui, sans être de droite, on va dire traite ou recycle la vulgate de la domination et donc est de droite. Il y a tout un théâtre qui, on le voit aujourd'hui, est d'une complaisance avec les grands schèmes de ce qui nous domine en se faisant passer pour des œuvres incorrectes. On sait bien qu'aujourd'hui tout un pan de l'intelligentsia qui est loin de là, n'est privé d'aucun micro et d'aucune couverture de presse, se fait passer pour étant minoritaire, et on a la même chose dans le théâtre. Moi, la question, c'est pas de venir dire encore une fois il y a une vérité du théâtre politique, c'est de regarder ce que la politique en tant que puissance conflictuelle peut faire à la pratique théâtrale et comment la pratique théâtrale peut être nourrie, mais aussi, à rebours, peut nourrir la politique. Et évidemment, ce que moi j'ai choisi, c'est une politique qui appartient à la gauche radicale. Oui.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
Il y a une chose que il faut sans doute qu'on précise, Olivier Neveu, d'ailleurs c'est à l'œuvre dans tout le livre que vous écrivez, c'est que le théâtre politique ou la politique au théâtre, c'est pas l'idéologie. C'est pour ça que je vous posais cette question de est-ce qu'il faut être de gauche ou de droite ou des deux ou de nulle part. C'est pas une question d'idéologie. Au fond, aujourd'hui, si on vous lit bien, faire du théâtre politique, c'est-à-dire faire un théâtre qui soit subversif, perturbateur, contrariant, problématique, ça passe presque plus par la forme que par le discours.
Oui, en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est de se demander dans les luttes qui sont les nôtres aujourd'hui, qu'est-ce que peut le théâtre ? Et je crois qu'on ne peut pas demander au théâtre de faire ce que fait une manifestation, ce que fait une organisation, ce que fait un rassemblement, de travailler sur des allures. Ce n'est pas l'enjeu du théâtre. En tout cas, il peut le faire, mais je ne crois pas que ce soit là où les coups qu'il peut porter sont incomparables. Mmh. Et ce qui m'intéresse, c'est d'inventer ou de chercher à partir de ce que je vois. Moi, je ne travaille qu'à partir de ce que proposent les artistes. Je suis pas, il n'y a pas d'enjeu programmatique. Je ne suis pas là pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Donc, j'ai vu des spectacles. Et à partir de ces spectacles, j'essaye de réfléchir. Et ce qui m'intéresse, effectivement, c'est comment un certain nombre de spectacles ne font pas de la politique une question thématique. Vous avez des spectacles qui appellent à l'égalité, qui sont absolument paternalistes et infantilisants. Donc, vous avez un humanisme qui est insupportable. Donc, la question n'est pas tant celle de ce que ça dit que du type d'adresse que ça met en place, et cette façon de venir reconfigurer ou d'entretenir avec la réalité peut-être un certain nombre de rapports nouveaux. Peut-être que la politique, elle a à voir avec l'invention de nouveaux rapports.
Oui, mais vous amenez ce danger qui est qu'aujourd'hui, tout le monde se revendique d'un théâtre politique, que c'est très lénifiant et que c'est très facile, finalement, je vous cite, de dénoncer la méchanceté des vilains, la dangerosité de la barbarie et la complicité de l'apathie. Donc en fait, vous êtes très agacé par ce théâtre qui ne blesse pas notre confort de pensée, je vous cite encore, ne déséquilibre pas nos certitudes, n'agace pas nos esprits. Donc il y aurait des spectacles qui sont l'arbre qui cache la forêt, qui font mine d'eux, qui font de la politique au petit pied, mais qui occultent les vrais spectacles insurrectionnels.
Il y a des spectacles qui, sous couvert de faire de la politique, me semble-t-il, sont absolument raccord au consensus du monde. Le consensus
étant... Pour ne pas dire racoleur.
Certains, pas tous. Il y a des gens qui font ça avec une immense intégrité, beaucoup de générosité. Il y a des gens très intéressants. Après, ce qu'ils racontent, ce qu'ils disent, ce qu'ils montrent, leur manière de configurer le monde, de le dessiner, de dessiner un contour à ce monde, d'inventer des rapports, me semble être absolument redondant ou homogène aux affects par lesquels la domination aujourd'hui nous accapare, etc.
Est-ce que vous trouvez que les artistes sont présents sur le terrain social?
Ah, ils le sont beaucoup. D'abord, ils sont quasiment obligés. Aujourd'hui, vous pouvez pas faire une création si vous vous engagez pas à faire des trucs à l'école, en hôpital, en EHPAD, etc. Vous avez une suraccumulation comme ça de choses. Après, certains le font encore une fois très très bien. La question, c'est est-ce que c'est là où seule la question politique peut s'épanouir et se poser.
Olivier Neveu, est-ce qu'ils sont présents sur le terrain, par exemple, des mouvements de rue actuellement ? Il y a une pétition qui est sortie il y a quelques semaines dans Libération, signée par 1400 et quelques artistes, notamment beaucoup d'artistes de cinéma, en tout cas c'est les premiers noms qui étaient avancés dans la pétition, qui étaient mis en avant, soutenant les Gilets jaunes, disant « nous ne sommes pas dupes ». Il n'y a pas énormément d'artistes de théâtre. Parmi les signataires, on n'est pas là pour porter un jugement, c'est leur droit d'y être ou de ne pas y être. Mais vous vous dites vous-même, dans le livre, troublé par cette absence, comme si le théâtre, je continue la citation, était massivement indifférent, étranger ou tétanisé par les intensités qui s'expriment ça et là, par les productions inédites, locales, de démocratie, d'organisation. Pourquoi cette absence, selon vous ?
Alors, elle est intéressante, cette pétition, parce qu'elle arrive tardivement, c'est très bien qu'elle soit là, mais elle arrive au bout de plusieurs mois. Enfin, ça a commencé quand même en octobre, le mouvement des Gilets jaunes. Effectivement, il y a très peu de signataires de théâtre, il y en a. On croise quand même des artistes de théâtre dans la rue, on les croise dans les mouvements, on croise beaucoup de jeunes artistes dans les mouvements, on a vu ça sur la loi El Khomri et son monde, etc. Donc, les artistes, à titre individuel, sont présents en tant que tels, signataires de textes, engagés dans les choses. Effectivement, ils y sont peu. Je ne saurais pas dire pourquoi. Certainement, il y a aussi des logiques de mépris de classe, aussi la propagande. Enfin, les artistes sont pas en dehors du monde et ils ont été aussi chopés par tout un discours anti-gilets jaunes qu'on a pu entendre. Moi, je le regrette parce que il se passe pour qui suit un tout petit peu les luttes, et il y a la lutte des gilets jaunes, alors qui est une lutte pleine de contradictions, mais assez passionnante. Il y a celle qu'on a vécue avec Nuit debout il y a quelques années. Il y a ce qui se passe dans les zones à défendre. Bon, ce sont des endroits où s'inventent des alternatives et ce sont des lieux d'émotion, d'affect, de pensée collective absolument incroyable. Et je crois qu'une partie du monde de l'art, et encore une fois, il y en a, enfin, on en croise un paquet, une partie du monde de l'art aurait intérêt à aller se connecter aussi aux formes d'expression et aux intensités nouvelles que les combats d'aujourd'hui, qui sont des combats un peu atomisés, mais nombreux. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'adopter une position catastrophiste et décliniste en disant c'est la catastrophe, on a droit à la barbarie, ça vous donne un air et ça permet de poser. Effectivement, on y va peut-être à la barbarie et l'heure est d'une très très grande gravité. Il n'empêche qu'à côté de ça, il se passe un nombre de choses incroyables dans des mouvements de masse ou dans des mouvements isolés. Certains artistes y sont. Le monde théâtral, il est aussi traversé de conflits, de clivages. Il y a une lutte des classes à l'intérieur du monde du théâtre. Il y a de la précarité et puis il y a des rentiers. Ou en tout cas, il y a des gens qui s'en sortent très bien ou qui s'en sortent mieux. Bon, ce monde-là est beaucoup moins présent qu'il y a 20 ans sur ces questions-là. Je me souviens qu'il y a 20 ans, des pétitions, on en voyait beaucoup, des tribunes. En revanche, il est beaucoup plus présent dans l'affirmation qu'il fait du théâtre politique, alors qu'il y a 20 ans, on était au contraire dans un terrain un peu adverse.
Curieux renversement des choses. Alors, puisque vous parlez de pétitions, il y a un homme qui a signé beaucoup de tribunes, qui a signé beaucoup de pétitions, qui en signera encore probablement s'il le juge nécessaire. Cet homme, c'est notre second communiste de l'émission, c'est notre autre référence. C'est Jean-Pierre Vincent qui, en 2008, montait le silence des communistes. Je vous propose de l'écouter, justement. Sommes-nous politiques ou pas?
Alors, il ne s'agit pas d'énoncer des vérités et de donner des réponses. Chaque spectateur, devant cette sorte de pensée en mouvement que ces trois personnes ont, peut avoir envie de discuter à l'intérieur même du spectacle. Mais c'est le premier spectacle depuis longtemps où j'assiste à toutes les représentations. J'entends la salle penser au rythme des silences. D'habitude, on entend une mouche voler ou un ange passer. Là, on entend un public penser. Et se sentir digne de penser. Et le travail des acteurs par rapport au public, c'est de savoir où se place leur incarnation. Qu'est-ce qu'ils incarnent? D'habitude, ils peuvent incarner un personnage ou une situation ou une fable. Là, il s'agit d'incarner des pensées et une manière de penser. De suggérer au public qu'il a le droit de penser ce qu'on lui répète qu'il ne peut plus faire, qu'il n'est plus capable de faire. Alors après, les conclusions politiques de tout ça, il n'y en a pas. Il y a du politique vivant, je l'espère, tous les soirs, autour de cette chose qui suppose aussi une jauge de public de moins de 200 personnes. Parce que au jour d'aujourd'hui, une vraie réflexion politique ne peut pas s'adresser à 2000 personnes.
Sans doute a-t-il raison, Jean-Pierre Vincent. Une vraie réflexion politique aujourd'hui ne peut plus s'adresser à 2000 personnes. On n'est pas dans un rapport hugolien à la politique et au théâtre ou au théâtre politique. On est sans doute beaucoup plus dans ce que vous nommez à un moment donné dans le livre « Contre le théâtre politique » publié aux éditions La Fabrique, Olivier Neveu. On est dans le petit. Le petit, c'est-à-dire l'adresse à l'individu, et le petit aussi en tant que la forme n'a pas à être spectaculaire pour être opérante.
Alors je vais revenir légèrement en arrière sur la déclaration de Jean-Pierre Vincent avant de répondre à la question sur le petit. J'ai un désaccord, malgré toute l'affection que je peux avoir pour Jean-Pierre Vincent, avec l'idée que le théâtre n'est pas là pour donner des réponses. Je pense que le théâtre n'est pas là pour donner des réponses, en tout cas on n'a pas besoin du théâtre pour donner des réponses. Mais je ne crois pas du tout qu'un théâtre qui donne des réponses est un théâtre qui machinalement produit une adhésion du spectateur. Moi je ne pense pas moins devant quelqu'un qui affirme un avis tranché que devant quelqu'un qui le neutralise.
Oui, mais vous aimez la dialectique. Vous aimez l'opposition, vous aimez la contradiction, Olivier Neveu. Vous faites un appel d'ailleurs à ça dans Contre le théâtre politique. Vous faites un appel à presque une forme d'agressivité dans les spectacles.
En tout cas, à retrouver la gourmandise pour les contradictions. Mais il n'y a pas que moi. Qu'est-ce que ça veut dire d'imaginer que parce qu'on dit quelque chose, la personne y adhérerait automatiquement? Les gens ont aussi une capacité à produire des objections à ce qui se dit. Et je ne crois pas que le théâtre est uniquement là pour nous transmettre des doutes. Le théâtre peut avoir des avis très tranchés et peut, et ça rejoint ce que dit Vincent, nous faire vivre des expériences mentales incroyables. Et c'est peut-être tout à sa gloire de nous faire vivre des expériences mentales incroyables sans qu'on les partage nécessairement. Il y a aussi une dichotomie entre ce qui se passe sur un plateau et ce qui se passe dans la salle. Il y a une chose aujourd'hui qui circule sur l'idée que le plateau devrait être un endroit neutre qui me paraît être une facilité. Donc ça, c'est une première chose. Et après, sur la question, est-ce qu'on parle à 200 ou... D'abord, je pense qu'il n'y a pas de règle. Je pense que historiquement, il y a des moments où il faut parler à beaucoup de monde. Et puis, il y a d'autres moments où, au contraire, non. Donc, et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de constater, et ça je le dois beaucoup à Jacques Rancière, de constater qu'il n'y a pas de systématisme des formes pour l'émancipation. Une chose peut tout à fait être émancipatrice à un moment et historiquement, dans une autre conjoncture, produire autre chose. Du théâtre de rue n'est pas nécessairement émancipateur et du théâtre à l'italienne, dans un rapport hyper frontal, n'est pas nécessairement aliénant. Après, oui, moi ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est la question du petit.
Alors qu'est-ce que vous appelez le petit ?
En fait, c'est né d'une rencontre entre deux choses. Entre un texte que j'ai lu du regretté Miguel Abensur, qui est une postface aux écrits Minima Moralia d'Adorno, où Abensur fait un éloge du petit face à au monumental, face au compact et à la compacité du monde, espèce de petite chose qui résiste parce qu'elle est infime, qui résiste à sa saisie globale. Et puis c'était le moment où je sortais d'un magnifique spectacle de Chantal Morel sur Hölderlin, où avec deux comédiennes, elle convoquait l'infini Hölderlin, bon, avec trois palissades dans un tout petit lieu, le petit 38, qui était le lieu qu'elle animait à Grenoble. Et la concaténation des deux choses m'a passionné. C'est-à-dire que oui, je crois que le théâtre, même un théâtre très grand, reste petit par rapport au monde. Vous savez, il y a une phrase de Victor Hugo que cite Annie Lebrun. Victor Hugo dit...
Auteur du trop de réalité qu'on avait reçu la saison passée, Annie Lebrun. Hein. C'est philosophe très importante et philosophe en résistance, si l'on peut dire. Hein.
Tout à fait. Et elle cite une formule de Hugo qui dit « La beauté, c'est l'infini entouré d'un contour ». Eh bien, ça pourrait être ça, le petit. Pour percevoir l'infini, s'il n'a pas de contour, on peut pas le percevoir. Mais un contour qui ne recueillerait pas en lui l'infini, c'est juste un contour dont on n'a rien à foutre. Bon, donc la question, c'est cette dialectique entre cet infini et ce fini. Et je trouve bouleversant le fait qu'au théâtre, dans des tout petits castelets, parce que même si le castelet est gigantesque, il reste minuscule, dans ce petit-là, puisse se dire l'immensité et l'infini du désir, du vice, du crime, de la folie, de la peur, mais que ce soit tenu, je crois que nous avons besoin de représentation, nous avons besoin de médiation, nous ne pouvons pas être constamment saisis dans le flux du direct dans lequel nous sommes projetés par le capitalisme, et regarder une œuvre, c'est être confronté à ce petit. Et il y a une formule que j'aime beaucoup du grand poète Sonny Laboutancy. Sonny Laboutancy disait « Le théâtre est peut-être l'une des dernières occasions qui nous reste de donner la chair de poule aux idées. » Voilà. Bien, donner la chair de poule aux idées, c'est peut-être ça le petit. C'est mettre dans le fini d'un corps l'infini d'une expérience mentale.
On est malheureusement en train de s'acheminer vers la fin de cette émission, Olivier Neveu, mais je voudrais quand même vous poser une dernière question. Contre le théâtre politique, titre de votre essai publié aux éditions La Fabrique. Est-ce que c'est un livre écrit pour en finir avec cette idée d'un théâtre qui serait pacificateur, réconciliateur, consolateur? Ou est-ce que c'est un livre écrit pour qu'on renoue avec ce dont on est en train de s'éloigner, qui s'appelle l'art, au-delà même du théâtre?
C'est un livre écrit au nom d'une double passion, d'une passion pour la politique, et je sais qu'elle est très mal vue aujourd'hui, mais au nom d'une passion pour la politique, pour la pratique politique, pour les instances de délibération, pour l'invention d'alliances, pour le désir collectif d'en finir avec ce monde. Et c'est aussi effectivement un livre écrit avec une passion pour le théâtre, pour cette pratique humaine absolument singulière et spécifique. Et la question, c'est si on emploie l'un pour l'autre, comment faire pour que les deux soient au maximum de leur intensité, pour qu'on en finisse avec ces conditions d'existence absolument inacceptables. Donc je ne crois pas que l'art s'éloigne du théâtre. En revanche, je pense qu'il faut défendre l'art, mais pas défendre l'art au sens de espèce de chose, encore une fois, qui trônerait dans le ciel étoilé des idées, espèce de machin inspiré où les muses viendraient chuchoter à l'oreille des poètes, ou espèce de truc surplombant de classe. Non, l'art, en tant que c'est une pratique sociale absolument spécifique, dont s'est dotée l'humanité, qui est absolument irréductible à la communication de messages et qui vient, par sa seule existence minuscule, infime, petite, transformer nos perceptions de ce qui s'appelle la réalité. Et transformer nos perceptions de la réalité, c'est déjà commencer à la transformer et refuser de s'inféroder à elle.
Bien, merci mille fois à vous, Olivier Neveu, d'être venu débattre ardemment dans cette saison au théâtre, du théâtre et de la politique. Je rappelle la parution de votre livre. Il est édité aux éditions La Fabrique. C'est un réquisitoire, un plaidoyer, un manifeste, un vade-mecum enfin qui peut, chères auditrices et chers auditeurs, vous aider à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe sur les scènes de théâtre actuellement. Je rappelle aussi que Electre, Oreste, d'Euripide, mise en scène par Ivo Vanoff, se joue à la Comédie Française. C'est à la Salle Richelieu jusqu'au 3 juillet. Et comme chaque semaine, on le redit, une saison au théâtre s'écoute, se réécoute, mais surtout ce podcast à sa page sur le site de France Culture et aussi sur Deezer et aussi sur Spotify. Nous sommes absolument partout. Alexandre Dang, Chouchane, Djergaillan, Valentin, Henrine, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot, vous salue, 16h sur France Culture. Restez avec nous, c'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.